23h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
La déflagration a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Nouveau bilan après l'explosion du plus grand port commercial d'Iran. 40 morts et plus de 1000 blessés. L'origine du drame n'est pas encore confirmée. On fait le point en début de journal. La piste d'un acte islamophobe est privilégiée. La France en deuil 48 heures après le meurtre d'Abou Bakar, un fidèle musulman tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard dans le sud du pays. On écoutera le procureur d'Alès qui travaille sur le dossier. Dans ce journal également, la Chine déclare avoir pris position sur un îlot contesté par les Philippines. Un bout de terre très stratégique dans un contexte de tension entre les deux pays. Et puis une attaque à la voiture Bélier a fait 11 morts et des dizaines de blessés au Canada. Un festival de la communauté philippine de Vancouver a été visé. Cette catastrophe intervient avant les élections législatives prévues ce lundi. Vous avez les titres ? Bienvenue. Le bilan s'alourdit dans le sud de l'Iran. 40 morts et plus d'un millier de blessés après la violente explosion survenue dimanche dans le plus grand port commercial du pays, à Bandar Abbas. L'origine n'est pas encore confirmée, mais ce serait probablement les conséquences d'un incendie qui se serait déclenché dans un entrepôt de substances dangereuses et chimiques. Dimanche après-midi, le président iranien Massoud Pezeshkian s'est rendu sur place. Sarah Yasmine Ziani.
Il est arrivé sur les lieux de la catastrophe en début d'après-midi pour présenter ses condoléances, rencontrer certains des blessés à l'hôpital et remercier les secouristes. Plus de 24 heures après la catastrophe, des flammes continuent de ravager le port Shahid Rajaï. Pompiers, bombardiers d'eau et hélicoptères ont pour l'heure réussi à contenir 80% de l'incendie selon la presse iranienne. La Russie annonce aussi envoyer du matériel pour aider son allié à lutter contre le feu. Une seule zone du port a été touchée, zone dans laquelle ne se trouve aucune cargaison pour usage militaire, indique le gouvernement. Une enquête est ouverte, mais Téhéran n'évoque pas la piste d'un potentiel sabotage. Alors que la fumée continue de se propager, les autorités ont ordonné dimanche la fermeture de bureaux et d'établissements scolaires. Ça concerne les 650 000 habitants de la ville de Bandar Abbas, où se trouve le port en question. Lundi, c'est tout l'Iran qui observera une journée de deuil national.
Le sud de Beyrouth, touché par une frappe israélienne. L'État hébreu dit avoir visé un entrepôt de missiles de précision du Hezbollah et assure avoir tué un membre du mouvement chiite pro-iranien. Troisième fois que l'armée israélienne vise la capitale libanaise depuis le cessez-le-feu du 27 novembre dernier. Quelques heures plus tôt, elle avait appelé à évacuer la zone. Le président libanais appelle les États-Unis et la France à contraindre Israël à cesser ses frappes. Washington dit avoir frappé 800 cibles au Yémen depuis mi-mars. Des attaques qui ont tué des centaines de combattants yéménites pro-Iran. Ce dimanche, des médias houthis annoncent la mort de 8 personnes dans des frappes américaines sur la capitale Sanaa. La piste d'un acte islamophobe est privilégiée. La France en deuil 48 heures après le meurtre d'Abou Bakar, un fidèle musulman tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard, c'est dans le sud du pays. D'autres hypothèses restent à l'étude, selon le procureur d'Alès. Il pointe certains éléments qui pourraient laisser penser que ce n'était peut-être pas le mobile premier ou le seul mobile. Lors d'une prise de parole aux côtés du ministre de l'Intérieur, Abdelkrim Grini a livré quelques éléments sur le profil du suspect identifié, mais toujours en fuite. On l'écoute.
C'est un jeune d'une vingtaine d'années, né en 2004, qui est né en France, qui vivait depuis ces dernières années dans le ressort du département du Gard. Même certains membres de sa famille y vivent. Ensuite, quelqu'un qui n'avait pas, je dirais, d'activité particulière, qui n'était pas connu, qui était sous les radars, si vous me permettez cette expression, de la justice et des services de police, et qui, à aucun moment, jusqu'à ces tragiques faits qui lui sont reprochés, n'avait jamais fait parler de lui. Je vous cache pas que dans le cadre de la vidéo qu'il a prise, après s'être glorifié de son acte, après l'avoir même quasiment revendiqué, il a tenu des propos qui laisseraient penser qu'il entendait commettre à nouveau des faits de même nature. Donc c'est aussi l'une des raisons qui a fait que nous avons réagi immédiatement avec autant de moyens. Plus de 70 enquêteurs qui sont mobilisés jour et nuit à chaque instant. On espère qu'il ne réitérera pas, mais en tout cas c'est un élément qui ne nous échappe pas et sur lequel bien évidemment nous sommes particulièrement vigilants pour éviter que celui-ci ne fasse d'autres victimes.
asseyez-vous et signez les mots de Donald Trump adressés à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Washington prédit une semaine cruciale pour les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ce dimanche, le président américain dit croire que Volodymyr Zelensky serait prêt à renoncer à la Crimée. Sur le front, le président ukrainien a assuré que son armée poursuivait les combats dans la région de Koursk, tout en réfutant l'annonce de sa libération par Moscou. Un événement qui pourrait envenimer davantage les relations entre les deux pays. La Chine affirme avoir accosté sur un îlot contesté par les Philippines. Les gardes-côtes chinois occupent cette petite île de mer méridionale depuis mi-avril. Et ce n'est pas un hasard, car elle est située à proximité d'un avant-poste militaire philippin. Les Chinois ont annoncé avoir des objectifs bien clairs, y exercer leur souveraineté et surveiller les Philippines. Correspondant sur place, Nemo Lecoq-James.
Un tout petit banc de sable, un grand drapeau rouge et la promesse d'une nouvelle vague de tensions diplomatiques entre Manille et Pékin. C'est un média d'État chinois qui a diffusé il y a quelques heures ces images à la télévision qui dateraient de mi-avril. On y voit quatre hommes en noir se déplacer avec un drapeau chinois sur l'îlot Sandy Cay. Ce tout petit îlot qui fait la taille d'une grande maison est situé dans la mer de Chine méridionale et il appartient à l'archipel des Spratleys. Pour comprendre, l'archipel des Spratleys, c'est un ensemble d'îlots très stratégiques qui se trouve entre les Philippines et le Vietnam et qui est très disputé en Asie du Sud-Est. Il est tout particulièrement revendiqué par la Chine, qui provoque régulièrement ses voisins en toute illégalité. Cette fois-ci, même si l'îlot occupé par ce groupe de Chinois est tout petit, il a une valeur très stratégique pour Manille. Il est juste à côté de la plus grande île de l'archipel, qui est sous le contrôle de gardes-côtes philippins. Cette provocation n'arrive pas par hasard, elle intervient en plein milieu d'une période d'exercice militaire conjoint entre les Philippins et ses alliés occidentaux, exercices qui sont notamment destinés à contrer l'intimidation de la Chine dans la région. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Ce drame au Canada, samedi soir, une voiture a foncé dans la foule, bilan au moins 11 morts et des dizaines de blessés. L'attaque a visé un festival de la communauté philippine à Vancouver. L'assaillant souffrirait de problèmes de santé mentale selon la police. Une catastrophe avant les élections législatives prévues ce lundi. Le Premier ministre canadien Mark Carney est favori. Une visite qui ne passe pas inaperçue. Le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, s'est rendu à Copenhague ce dimanche. Première visite officielle au Danemark qui acte un rapprochement entre les deux pays. Le Groenland, territoire autonome mais qui appartient au Royaume danois. Donald Trump continue de son côté à menacer l'île arctique d'annexion. Direction la République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, s'est rendu à Kinshasa. Il doit rencontrer le président, Félix Tshisekedi. Au cœur des discussions, la résolution du conflit dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo, le seul pays où vivent les bonobos à l'état sauvage. Chez les mammifères, la domination des femelles sur les mâles est un phénomène extrêmement rare. Pourtant, chez les bonobos, l'un de nos proches parents, les femelles ont pris le pouvoir sur les mâles. C'est le résultat d'une étude menée par des biologistes américains et allemands. Les chercheurs ont donc voulu comprendre les mécanismes qui expliquent cette domination sociale des femmes. Igor Strauss.
C'est un contraste frappant avec les chimpanzés, leur espèce sœur, chez qui les mâles dominent toutes les femelles avant leur pleine maturité. Chez les bonobos, les femelles ont un statut spécial par rapport aux autres singes, puisqu'elles occupent souvent une position sociale plus élevée que les mâles. Un statut qui leur permet de choisir librement leur partenaire sexuel et le moment de la reproduction, ou encore de contrôler l'accès aux ressources alimentaires convoitées comme les fruits. Jusqu'alors, trois hypothèses étaient en concurrence pour expliquer cette domination des femelles. La première, dite d'auto-organisation, suppose qu'en dominant les mâles les moins compétitifs, les femelles pourraient gagner un rang social plus important. La seconde hypothèse est celle du contrôle de la reproduction qui rendrait les mâles moins agressifs et renforcerait à l'occasion le pouvoir des femelles. Et la dernière hypothèse, celle qui a finalement été validée par les scientifiques, est celle de la coalition féminine. Grâce à des alliances soudaines et coordonnées, appelées coalitions, les femelles parviennent à prendre l'ascendant sur les mâles. Pour les chercheurs, ces alliances sont donc un formidable outil de pouvoir chez les mammifères.
Igor Strauss du service environnement d'RFI. Et puis avant de fermer ce journal, quelques mots de football. En Angleterre, après une victoire contre Tottenham 5-1, Liverpool est sacré champion. 20e titre en championnat pour les Reds, qui égale le record de Manchester United. Un succès avec la manière, puisqu'ils devancent leur dauphin Arsenal avec 15 points d'avance à 4 journées de la fin du championnat. En France, l'Olympique de Marseille s'impose 4-1 face à Brest. Triplé de l'Algérien Amine Gouiri, les Marseillais reprennent la deuxième place. Pour l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, ça ne passe pas. Défaite 4-1 contre Arsenal en demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Les Anglaises retrouveront le FC Barcelone en finale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.